À la présentation du journal, Jocelyne Moussaopondé.
Comment mettre en place des modalités pour sensibiliser, désarmer, démobiliser et insérer les ex-combattants? La question était au centre des échanges hier à Bukavu entre les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu et le chef adjoint de la MONUSCO. Après les attaques des ADF dans les territoires de Beni le week-end dernier, les écoles de Mangina ne fonctionnent pas depuis. La société civile locale plaide pour un réaménagement du calendrier scolaire. L'invité de la rédaction ce soir est Jean-Lucien Boussa. Pour le ministre du Commerce extérieur, l'appartenance de la RDC à une zone de libre-échange continentale représente une bonne opportunité. Bonsoir à tous. Sachez tout d'abord que le président Félix Tshisekedi inspecte en ce moment les chantiers de saut de mouton dans la ville de Kinshasa. À la Tchangou, le chef de l'État congolais a discuté avec le chef des chantiers, mais également les ouvriers à Pascal, à Bitabé et à Desbonhommes, avant de se rendre aux chantiers du centre et de l'ouest de la capitale. En début d'après-midi, Félix Tshisekedi s'était rendu à l'Unikin pour voir de ses yeux l'évolution de la réhabilitation des résidences étudiantines. Nous reviendrons sur cette information avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt, les provinces du Nord et du Sud Kivu réfléchissent ensemble sur les modalités à mettre en place pour parvenir à sensibiliser, à désarmer, démobiliser et à réinsérer les ex-combattants qui pilulent encore dans les deux provinces, dans l'est du pays. Ces ex-combattants sont estimés environ 50 000 au Nord et au Sud Kivu. C'est dans ce cadre que les gouverneurs des deux provinces susmentionnées se sont réunis hier, mercredi, à Bukavu, autour du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, François Grignon. Jean Kassami nous fait le point.
Les deux gouverneurs du Nord et du Sud Kivu et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies ont passé en revue le contexte de la création de la commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Tous les acteurs impliqués dans ces processus sont unanimes que les trois premières phases du DDR ont échoué et que c'est le moment de mettre sur pied de nouvelles approches afin de corriger les erreurs du passé. L'objectif primordial est de mettre définitivement un terme à l'existence des groupes armés locaux et étrangers dans les deux provinces pilotes du DDRC. Ces programmes concernent aussi les combattants congolais qui opèrent en dehors du territoire de la RDC. Teongwa Bijekasi, gouverneur du Sud Kivu.
Au 1er avril 2020, nous comptons organiser une table ronde de mobilisation des recettes. Au 1er juin 2020, nous comptons démarrer les activités.
Dans son exposé, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kasivita, a signifié qu'il serait illusoire que les ex-combattants espèrent réintégrer l'armée régulière in globo. Seuls les ex-combattants qui remplissent les conditions requises seront réintégrés. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi cet appel du général Patrick Doubé de la Brigade d'intervention des Nations Unies, la FIB. Le général Patrick Doubé invite les populations de la région de Beni en général et ceux de Mangina en particulier à se désolidariser de certains groupes Maïmaï qui, selon lui, sont alliés aux ADF en les dénonçant auprès des services de sécurité. Par ailleurs, il exhorte cette population à n'est pas se rendre justice par la pratique de la justice populaire. Il le dit ici au micro de Sekombi Katondolo.
Nous demandons à la population de nous aider dans son espace à retrouver les ennemis parce que les villageois se connaissent. Si vous voyez une personne inconnue, il ne faut pas les tabasser ou lui faire quoi que ce soit. La pensée est là, alors il faut seulement aller les dénoncer et dire que cette personne est inconnue et la pensée fera son travail. Nous voulons vraiment continuer avec notre travail. Alors, arrêtez d'apporter de l'aide aux Maïmaï. Je sais que le gouvernement a un processus en cours pour en finir avec le Maïmaï.
À Mangina, puisque nous y sommes, les écoles ne fonctionnent pas depuis plus d'une semaine maintenant. C'est là après les attaques des ADF dans la région, lesquelles ont causé le déplacement massif des populations vers des grandes agglomérations jugées plus sécurisées. La société civile Noyau de Mangina plaide pour un réaménagement du calendrier scolaire pour ainsi permettre aux élèves de cette zone de passer leurs examens du premier trimestre. On écoute Rangi Jupson, son président, au micro de Sekombi Katondolo.
Nous voudrions que le ministre puisse aider ses élèves, qu'on puisse encore aménager notre calendrier pour les élèves de Manguina qui ont fui. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'une guerre, des atrocités, c'est tout le monde qui fuit. La balle ne connaît pas qui est élève, qui est militaire et qui est citoyen. C'est tout le monde d'abord qui prend fuite, et que nous voudrions que le ministre, au niveau national, qu'il puisse réaménager et calendrier pour les élèves de Manguina, à ce qu'on puisse voir comment on va récupérer les élèves qui étaient en plein examen et qu'ils ont déjà pris fuite. Donc nous demandons à ce que le ministre provincial, que ce soit national, qui puisse aider ses enfants. Ce sont nos enfants, les cadres de demain de ce pays.
À Zwangouba, village situé en aval de la rivière Oubangui, non loin de la cité de Mombaimbongo, plus de 400 enfants des familles victimes des inondations ne sont plus scolarisés. Les parents ayant tout perdu lors de cette catastrophe naturelle ne savent plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Beaucoup parmi ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 17 ans, affichent des signes, des troubles psychologiques dus à leur état actuel. C'est ce qui a poussé l'ONG Action pour la protection et l'encadrement des enfants, avec l'appui de l'UNICEF, à mettre en place un espace ami d'enfants dans ces villages pour une prise en charge psychologique. Notre envoyé spécial dans la région, Jacques Molima, s'est rendu sur les sites. Voici son reportage.
Disposé en trois groupes selon les tranches d'âge, de 3 à 6 ans, de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans, ces enfants sont pris en charge par des formateurs de l'APE. D'après le chef de projet Françoise Mbélé, tout commence par le constat qu'ils font sur les enfants.
Les enfants qui ont des problèmes psychologiques en général.
Après les inondations, c'est ça que vous dites?
Oui. Tels que la timidité, le stress, la frustration. Et quand nous constatons les cas, nous faisons le référencement auprès d'un psychologue et l'enfant est pris en charge.
Entre-temps, sur le site, les enfants sont soumis à plusieurs activités. Alexis Callot, l'un des formateurs.
Nous faisons l'activité 3 fois par semaine. Il y a les activités sportives, culturelles, sociales, la sensibilisation sur le VIH et le sida, le dépistage volontaire.
Le dépistage avec les enfants?
Oui, on leur montre comment l'importance de ça aussi. Il y a aussi sur le violence sexuelle faite aux femmes et aux genres aussi.
Une formation qui porte déjà des fruits, reconnaît un parent.
Avec l'arrivée de l'UNICEF ici, nos enfants ne savaient pas dire bonjour au papa. Maintenant, ils le font. Ils se lavent désormais les mains avant de manger. C'est un pas important.
Notons que cet encadrement des enfants est prévu pour 3 mois. Depuis Zwangouba, dans le territoire de Mombaimbongo, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Okapi.
Et puis cette position de l'UNPC à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, c'est jeudi 13 février. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo plaide pour la réintégration de Jacques Matande à BBC Dakar. Le journaliste congolais a été évincé de la rédaction francophone de la BBC depuis le vendredi dernier. Sa rédactrice en chef lui reproche de n'avoir pas respecté la ligne éditoriale de ses médias dans une interview accordée à Charles Nana, journaliste camerounais d'investigation. Ces derniers ont mis en cause la version officielle du génocide rwandais dans un livre récemment publié à la suite de sa thèse de doctorat. Kasonga Chilunde affirme que Jacques Matande a été viré à cause de la protestation du Rwanda, ce que Kigali a nié selon lui. Il précise en outre que la diffusion en 2 mois et 2 semaines de cette interview sur le site de la BBC avait été validée par la même rédactrice en chef. Le président de l'UNPC parle des mesures que compte prendre son organisation si Jacques Matande ne réintègre pas la rédaction de la BBC. Il est au micro de Pascal Massirica.
BBC a été rattrapé par son mensonge. Et son mensonge qui nous a réconforté à aller au fond des choses pour demander que notre confrère, non seulement qu'il soit réintégré au sein de la rédaction, mais qu'il soit indemnisé pour tous les préjudices qu'il a subis. Et en même temps, nous avons demandé que la dame Thiam démissionne parce qu'elle n'est pas à la hauteur de sa charge. Parce qu'elle est là, elle livre les journalistes comme ça, donc ce n'est pas correct. Si par malheur, nous ne sommes pas écoutés, nous allons demander à ce que nous boycottions tout ce qui concerne BBC dans notre pays et nous allons demander à toutes nos autorités de ne plus jamais accepter des interviews avec BBC et sur le fond, c'est nous qui allons décréter de l'embargo contre ces autorités-là. Et à plus, nous avons demandé que la dame, la Thiam, puisse démissionner parce qu'elle n'est pas à la hauteur de sa charge et que nos amis de BBC comprennent qu'il est de leur devoir de protéger les journalistes. Parce qu'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fera.
La BBC est incapable comme média d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses partenaires, notamment le Rwanda. Si la faute à la base du licenciement de Jacques Mattan, de son journaliste, est avérée, ces licenciements devra concerner également les responsables de ce média. Cette réaction est du ministre congolais des droits humains, André Lité. Par ailleurs, le ministre exige la libération pure et simple d'un autre confrère indépendant du Maniema, Dickson Hassani, détenu à la prison centrale de Kindu. Dickson Hassani est écroué pour outrage au gouverneur de province. Le ministre des droits humains, André Lité, s'exprime au micro de Billy Von Toumba.
Nous, comme ministère des droits humains, nous sommes là pour promouvoir les droits, non seulement au niveau national, mais aussi international. Et que par les faits, ce que nous demandons, c'est tout simplement mettre en garde la Bible ici, parce que ce qui vient de se passer est un coup dur pour le métier qui est le vôtre, le métier du journaliste, qui promet la protection et la promotion des droits humains de par le monde. Ici, nous constatons tout simplement que la BBC est incapable, comme média, d'assumer sa responsabilité vis-à-vis du Rwanda. La vidéo qui a été postée dans les sites de la BBC par rapport à cette interview, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Jacques Mattan, votre confrère, n'a pas fauté. Deuxièmement, s'agissant de ce dossier de Kindu, le fait pour lequel il est aujourd'hui à détention est inacceptable. Je suis parmi ceux des Congolais qui pensent qu'il ne devait pas continuer à moisir en prison comme c'est le cas maintenant. L'OCDE doit les libérer par ses geôliers. C'est tout ce que moi je demande et sans délai parce que s'il bat des éléments à notre possession, rien ne justifie sa mise à détention. Et nous pensons que ceux qui sont responsables de cette situation vont faire amende honorable parce qu'autrement, ils peuvent également répondre devant les juridictions compétentes.
Actualité internationale.
Au Malawi, des manifestants ont symboliquement bloqué ce jeudi, avec des chaînes et des cadenas, l'accès au bureau de la commission électorale accusée d'incompétence par la Cour constitutionnelle qui a annulé l'élection présidentielle de mai 2019. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Lilongwe et marché vers les bureaux de la commission électorale du Malawi. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle du 21 mai 2019, remportée de justesse, selon la MEC, par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Les journalistes qui travaillent en Somalie subissent un véritable état de siège sous la menace des attentats djihadistes, des pressions politiques et des arrestations par la police. La dénonciation est de Amnesty International. Les journalistes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, sont confrontés à de longues dates à la fois à la violence des insurgés islamistes Shebab et aux restrictions draconiennes à la liberté d'information imposées par les autorités. Et les autorités somaliennes ont rejeté les conclusions du rapport, qualifiées d'allégations ridicules et accusé les journalistes somaliens qui ont fui le pays d'inventer des menaces pour s'assurer d'obtenir l'asile à l'étranger.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons dans ce journal le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, nous parle de la zone de libre-échange continentale qui, selon lui, représente une bonne opportunité pour la RDC. Jean-Lucien Boussa, Tongba, s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, au cours duquel l'Afrique du Sud a pris la présidence pour l'exercice 2020 et la RDC la vice-présidence de cette organisation, la question de la zone de libre-échange continentale a été évoquée largement. Où en est-on par rapport au préalable en République démocratique du Congo?
Merci pour la question. La RDC est signataire de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAF. Vous savez que cet accord a pour objectif, la libéralisation des échanges intra-africains. Ça veut dire la libéralisation tarifaire et le démantèlement tarifaire, mais aussi le démantèlement de ce qu'on peut appeler des obstacles non tarifaires. On devrait échanger librement. Il est convenu que pour les pays les moins avancés, cette libéralisation intervienne au bout des 13 ans. Mais dès le 1er juillet 2020, il faut commencer à démanteler les tarifs de l'ordre des 90% et c'est sur 10 ans. Les 10% qui restent devraient être démantelés pour les PMA, donc les pays les moins avancés comme la RDC, à partir de la 11e année, donc les 3 années, pour qu'ils parachèvent le processus. À ce stade, la République démocratique du Congo a déjà fait sa proposition sur les 90% des lignes tarifaires, sur les 6050 lignes tarifaires dont on dispose. La RDC a dégagé aussi ce qu'on appelle le produit sensible et le produit d'exclusion, qui ne seront pas concernés par ces démantèlements pendant les 10 ans à venir. Là aussi, on peut dire que la RDC a déjà fait ses propositions sur les commerces des services. Donc la RDC n'est pas en retard. par rapport à d'autres nations, au contraire.
Que va apporter cette zone de libre-échange à la République démocratique du Congo?
La zone de libre-échange continentale qui consacre donc les échanges libres intra-africains, c'est une opportunité pour l'Afrique d'abord, mais c'est aussi une opportunité pour la République démocratique du Congo. Comme vous savez, lorsque on ne paie pas les droits des douanes, ça veut dire qu'on peut importer au coût le moins élevé comme par rapport à aujourd'hui. Lorsque on exporte aussi auprès de pays voisins sans que les droits de douane ne soient payés, il est clair aussi que les pays voisins ou les pays d'Afrique tirent les bénéfices. Mais vous savez qu'il y a une relation étroite entre le commerce et l'investissement. Dès lors que on a libéralisé les échanges, il est clair que les coûts de production baissent. Il est aussi donc clair qu'on peut assister à des mouvements d'investissement direct étrangers entre Africains. Et nos capacités de production peuvent être améliorées. Mais il y a des craintes. Beaucoup de Congolais se disent, mais on produit pas grand-chose. On n'exporte pas grand-chose. Mais on risque de perdre les recettes des douanes. Et notre économie risque de devenir un déversoir. Je dirais à ces Congolais que c'est faux. L'adhésion à la zone des libre-échanges continentales doit être saisie comme une vraie opportunité qui doit permettre des ajustements au niveau des politiques économiques internes afin de nous préparer à pouvoir vendre sur un vaste marché. Le marché africain est de 1 milliard 250 millions d'habitants. Le commerce intra-africain est simplement de 7%. Avec la zone de libre-échange continentale, les études menées par les Nations Unies démontrent que nos échanges vont passer de 17% à 54% pour un marché qui va se développer jusqu'à atteindre des milliards en termes de PIB. C'est un marché important. L'argument à contrario, c'est lequel? Et si la RDC s'isolait seule, que deviendrions-nous alors que tout le monde a adhéré? Si la RDC s'isolait, il est clair, le coût de production en RDC vont augmenter. Il est clair que le prix des biens et des services vont augmenter par rapport aux pays africains qui seront dans la zone de libre-échange continentale. Et donc, par conséquent, personne n'achèterait en RDC. Et même les Congolais eux-mêmes vont commencer à prendre les produits des pays voisins qui vont coûter moins cher que les produits locaux. Donc, nous n'avons pas de choix, nous devons y aller.
Pourquoi la RDC n'a toujours pas ratifié l'accord portant à sa création?
Le gouvernement congolais a déjà, le 1er novembre 2019, adopté le projet de loi de ratification de la zone de libre-échange continentale. Je l'ai présenté à l'Assemblée nationale le 10 décembre de cette année, mais comme vous saviez, l'Assemblée nationale était en train d'aller aux vacances parlementaires, mais en même temps, il y avait une urgence, les budgets de l'État. Et donc, au retour de la session de mars, il est clair que la RDC va ratifier et va être en ordre. Ça sera peut-être le 29e État qui aura ratifié l'accord de libre-échange sur la zone de libre-échange continentale. Donc ça, c'est plus un défi. Le processus est en cours.
Notre pays ne produit pas grand-chose à part les secteurs miniers. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour la RDC d'adhérer à une organisation comme celle-là?
Mais on n'a pas de choix. Déjà, nous appartenons au COMESA. Nous sommes à la CAC. Nous sommes aussi membres de la SADC. Dans toutes ces organisations, les règles sur lesquelles se base la volonté des États membres pour le commerce, c'est justement le libre-échange. Où les gens doivent échanger sans barrière tarifaire et non tarifaire. Je pense qu'on a besoin des vastes marchés.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.